La faculté libre d'énergétique traditionnelle chinoise a été fondée en 1989 par Marcel Coste. La faculté libre d'énergétique traditionnelle chinoise a pour objet l'étude, la recherche et l'enseignement de la médecine traditionnelle chinoise. Elle s'est fixée comme objectif de former des praticiens de médecine chinoise compétents et efficaces dans les domaines de l'acupuncture, du tuina, de la pharmacopée et de l'énergétique chinoise. Cet enseignement est dispensé dans 3 centres de formation en France, Lille, Lyon et Toulouse. Jean-Yves Pogam est enseignant et responsable administratif de la faculté libre. Je l'ai rencontré à Lille lors d'une session de cours. Je lui ai demandé quelles sont les origines de la médecine chinoise.
Les origines de la médecine chinoise, donc ça remonte quand même dans le temps. Pour finaliser une date, disons qu'entre moins 200 de Jésus-Christ à plus de 100 de Jésus-Christ, on est sur la base formalisée de la théorie de la médecine chinoise actuelle, quoi. C'est-à-dire que c'est l'époque de la réunification pour la première fois de l'Empire de Chine, l'empereur Huangdi qui a réuni l'Empire. Et à partir de ce moment-là, donc, il y a uniformisation un petit peu de la, par exemple, des unités de mesure, uniformisation des diplômes pour les lettrés, uniformisation de toute la culture aussi, et donc de la médecine. Et aussi à cette époque, le corps et en médecine chinoise est regardé comme un petit empire, quoi. Hein, chaque organe dans le corps, hein, le cœur, le poumon, le rein, le foie sont regardés comme des éléments, enfin des intervenants. Donc le cœur est l'empereur, et le foie est par exemple le ministre des armées, c'est lui qui gère le corps, c'est lui qui gère les énergies, les mouvements de l'énergie dans le corps. La rate par exemple, qui est l'organe qui s'occupe des greniers, hein, c'est lui qui s'occupe de l'alimentation, de la mise en réserve de l'alimentation, etc. Donc disons qu'à partir de cette époque-là, hein, il y a mise en place de cette théorie qui va après donner donc la médecine traditionnelle chinoise effective, quoi. Et ça va se développer un peu plus tard par les Song. Sous l'époque des Song, ça va se théoriser encore davantage, etc. Sous les Tang, ça va se développer. Et voilà. Et après, pour avoir aussi parfois dans l'histoire des périodes de régression. Hein, et actuellement, semble être une période de régression en Chine.
Et comment cette médecine traditionnelle chinoise nous est parvenue en Occident ?
Alors il y a plusieurs théories là-dessus. Il y a plusieurs théories. Hein. Il y a déjà, donc on sait qu'il y avait des relations entre Orient et Occident, entre Rome et la Chine. Et quand on regarde sous l'aspect théorie, par exemple, en médecine chinoise, il y a la théorie des 5 éléments. On appelle ça la théorie des 5 éléments. Hein. Et disons qu'à la même époque en Grèce, il y avait aussi une théorie sur les 4 éléments. La Bible de la médecine traditionnelle chinoise, qui est le Neijing, hein, c'est-à-dire le classique de l'interne, qui date à peu près aussi des années 200, est un livre qui retrace un dialogue entre l'empereur Huangdi et son premier ministre Qi Bo. Et Qi Bo, pour certains, pourrait être Hippocrate. Hein, Qi Bo, Hippo, pour certains, pourrait être Hippocrate. Donc, ça pour dire qu'il y a eu des influences mutuelles, hein, et donc c'était pas si si dispersé que ça. Hein, l'information était, il y avait le lien qui se faisait déjà dans le monde à cette époque-là entre l'Orient et l'Occident.
Hein. Donc, ce serait passé par la Grèce, mais plus récemment, parce qu'il y a eu quand même un sacré comeback.
Oui, alors bon, après, il y a une relation comme ça qui s'est mise en place entre l'Orient et l'Occident à travers les échanges culturels, et il y a eu des échanges religieux aussi, donc il y a eu beaucoup de missionnaires de jésuites qui ont été en Chine et qui ont, c'était leur désir d'apprendre aussi la culture chinoise et d'apprendre la médecine chinoise qui quand même, quand on arrivait là-bas, je pense à cette époque-là, devait choquer un occidental parce qu'il y avait des méthodes de soins qui étaient quand même complètement différentes des méthodes utilisées en Occident à cette époque-là, quoi. Donc, il y a eu cet échange. Les missionnaires ont apporté la culture occidentale, mais ils ont aussi repris de la Chine des choses qui marquaient beaucoup, qui se différenciaient beaucoup et qui manifestement devaient donner des résultats, quoi. Manifestement, sur le plan médical, il devait y avoir une réponse au traitement, acupuncture et pharmacopée, etc., qu'ils ont rencontré, quoi.
Encore qu'au XVIIe siècle, la théorie des humeurs existait encore en Occident et on pourrait la rapprocher presque de la médecine chinoise.
Oui, peut-être, mais disons que dans la théorie de la médecine chinoise, les éléments, l'étiologie des pathologies sont les climats. Et c'était pas vu de cette façon en Occident, quoi.
Alors, quand la médecine chinoise a-t-elle été reconnue par l'OMS?
Je pense qu'il y a eu, je sais qu'il y a eu donc une période de régression de la médecine chinoise, de la même façon en Chine, mais aussi en Corée, par exemple, hein, où quand les Américains, quand les étrangers sont venus avec donc tous les bénéfices des médicaments occidentaux de l'époque, antibiotiques et autres médicaments qui ont apporté manifestement un bien-être aussi à l'humanité. Et bien, quand ils sont arrivés, ils ont en même temps détruit tout ce qu'il y avait de bon aussi dans la médecine traditionnelle chinoise, quoi. Et il était de bon ton de ne plus se faire soigner par la médecine chinoise traditionnelle. Maintenant, il y a eu un retour là-dessus. Et il est vrai que, par exemple, en Corée, maintenant, la médecine traditionnelle coréenne, qui est la même que la médecine traditionnelle chinoise, a un renouveau et l'élite, entre guillemets, de la population coréenne, maintenant, l'élite des jeunes sortant du baccalauréat, se dirigent vers la médecine traditionnelle coréenne. Donc, il y a comme ça des vagues dans l'histoire de développement et de régression, et ça c'est le yin et le yang, de toute façon, c'est clair. Il en est pareil pour les antibiotiques chez nous, hein. Il y a eu développement, et maintenant, si on écoute la radio, on s'entend dire qu'il ne faut pas mettre des antibiotiques à toutes les sauces. Et si on compare avec les émissions de radio de 1950, je pense que le discours serait complètement différent, quoi.
Quelle conception de l'homme et du monde véhicule la médecine chinoise?
Alors, le grand principe, c'est le qi. Le qi, c'est le qi. Alors, expliquer le qi, c'est comme...
Justement, j'allais vous le demander.
Le qi, c'est comme le tao, ça s'explique pas, quoi. Qi, on met du qi avec la pompe quand on met dans son vélo. L'eau gazeuse s'appelle qi shui, c'est l'eau avec du qi. Hein? L'énergie originelle, on va dire ça comme ça, elle s'appelle le yun qi aussi. Donc voilà, nous on le traduit par énergie, mais c'est le moteur peut-être de ce qui fait bouger le monde, quoi. Maintenant, à l'intérieur de ce qi, hein, c'est le principe de l'unité. À l'intérieur de ce principe-là, il y a le principe de la dualité, c'est-à-dire que il y a le jour et la nuit. Hein, quand on regarde, il y a le jour et la nuit, il y a le haut, le bas, il y a le soleil, la lune. Donc là, il y a deux principes qui sont inclus dans le qi, qui sont le yin et le yang, et qui sont les trois éléments, disons le qi, le yin, le yang, qui sont les trois éléments de base de la compréhension du monde suivant la théorie de la médecine chinoise, quoi.
Est-ce qu'on pourrait préciser le yin et le yang?
Alors, le yin et le yang, c'est pas toujours facile de traduire le chinois. Hein. Je me souviens de Marie qui était interprète dans notre cours et qui me demande de l'aider à traduire un jour, Jean-Yves, qu'est-ce que c'est l'unicité ou l'unité? Alors, je lui dis, oh Marie, t'inquiète pas, pour nous, ça va être la même chose. Elle me dit, mais non, regarde, l'unité en chinois, il y a trois mots pour le dire. L'unicité, il y en a quatre, mais c'est pas les mêmes. Donc voilà, donc la difficulté de traduire le chinois. Et en fait, le yin, le yang, bon, c'est cette notion de dualité, quoi. Cette notion de dualité, de complémentarité, et d'unicité, quoi. C'est un couple qu'on peut pas séparer, qui ne peut pas se séparer. Quand l'un se sépare, quand le yin et le yang se séparent, c'est la mort. Mais qu'est-ce que c'est que le yin et le yang ? C'est cette opposition entre deux natures. Alors ça peut être chaud, froid, haut, bas, interne, externe. Ça peut être l'eau, le feu, ça peut être le ciel, la terre, le soleil, la lune.
Le masculin, le féminin ?
Le masculin, féminin, ouais. Non, voilà, ça peut pas se traduire, quoi. Ça peut pas se traduire. C'est vraiment yin et yang. C'est impossible de traduire yin et yang avec un concept, voilà, rigoureux, quoi. C'est comme le Tao, la voix, c'est une autre notion. C'est impossible à traduire. On dit la voix, mais c'est Tao, c'est pas la voix, quoi. Ça, c'est des choses qui peuvent pas se définir. On peut donner des exemples, mais on peut pas, voilà, traduire ce mot-là, c'est pas possible, quoi. C'est une notion qu'on appréhende comme ça petit à petit, justement, dans l'utilisation, en voyant, par exemple, un visage rouge. Voilà, la couleur rouge va me traduire plutôt du yang. Si je vois un visage qui est pâle, qui est blanc, ça va me traduire plutôt du yin. Parce que quand on regarde l'avènement de ces termes dans l'évolution du langage en Chine, eh bien, justement, c'est quelque chose qui est venu un petit peu progressivement par, comme ça, opposition entre deux faces d'une montagne, l'une qui avait la lumière, l'autre qui avait la nuit, et deux formes d'activité, l'activité de l'homme, l'activité de la femme, etc. Enfin, voilà, c'était des activités. Donc, il y a toujours eu cette notion de différencier les choses en deux entités, et ça, c'est yin et yang, quoi.
Mais ça, c'est sûr que c'est pas l'Occident. La notion de santé et de maladie en Chine, c'est pas la même que chez nous.
La maladie, c'est le déséquilibre justement du yin et du yang. Hein, c'est quand le yin et le yang ne sont pas en harmonie, il y a un déséquilibre dans la circulation du qi dans le corps. Et quand le qi ne circule pas correctement dans le corps, ou si par exemple on dit que le qi trouve des obstacles devant lui pour circuler correctement, et bien à ce moment-là, on dit le qi stagne. Et le qi, qui est dans la définition qu'on peut donner, c'est matériau invisible, toujours en mouvement. Et bien quand ce matériau invisible, toujours en mouvement, n'est plus en mouvement, il devient matière, quoi. Il devient matière, et donc, par exemple, il se matérialise, et donc une obstruction à la circulation du qi va se matérialiser par va s'objectiver, par exemple, par un kyste, par un polype, par un caillot, par... voilà. Le chi qui ne circule pas bien va se matérialiser et voilà. Et la maladie va venir en suivant.
Alors bon, quand on est malade, on aime bien recouvrir la santé, on va voir un médecin. Alors comment ça marche, cette médecine chinoise ?
Oh, il y a deux niveaux, hein. Il y a deux niveaux parce que, enfin deux niveaux, même peut-être plusieurs niveaux. Il y a le niveau d'une pathologie, par exemple un traumatisme, hein, qui va toucher les muscles, les os. Donc là, on est sur l'aspect de la circulation dans les méridiens, mais sur un plan superficiel. Et après, la maladie peut toucher l'interne aussi. Hein, la maladie peut toucher l'interne. Quand on est dans une maladie superficielle, il suffit de rétablir la circulation dans les méridiens superficiels, si on veut. Et quand elle touche l'interne, il faut travailler sur les organes et les entrailles. Hein. Et donc, quand travailler sur les organes et les entrailles, ça veut dire connaître la physiologie de ces organes et de ces entrailles, savoir ce qui se passe quand les organes et les entrailles dysfonctionnent. Et donc, à ce moment-là, on peut répondre par l'acupuncture, par la pharmacopée, on peut répondre à un dysfonctionnement de la circulation de l'énergie. On peut remettre la circulation de l'énergie dans le bon sens, entre guillemets, quoi.
Alors la notion de prévention dans cette médecine.
Il est coutume de dire que le médecin chinois n'était payé que quand le patient était en bonne santé. Bon, ça se demande à se faire vérifier un petit peu ça. Mais ce qui est sûr, c'est que quand même, la médecine chinoise est une médecine d'observation et d'observation très fine, quoi. Hein, il y a des outils d'observation qui sont le pouls, qui sont la langue. Hein, le pouls qui permet de mesurer un petit peu la qualité énergétique de la personne. Et la langue qui permet de regarder un petit peu comment sont nourris les muscles à l'intérieur. Hein, puisqu'on peut voir ce muscle, on peut voir la langue. C'est le seul muscle quasiment qu'on peut voir de l'extérieur comme ça. Donc ça, c'est des outils très très riches. Hein, quand, bon, ça ne s'acquiert pas obligatoirement facilement, hein, à prendre les poux, parce que pour les Chinois, on a 6 poux, enfin 3 poux de chaque côté dans les mains, 3 poux radio. Donc bon, voilà, il y a tout un apprentissage de doigté, etc., de finesse de ça. Mais ce sont des outils qui vous permettent de découvrir de manière très sûre, hein, qui permettent de manière très sûre de, voilà, un dysfonctionnement de tel ou de tel organe, ou définir que telle personne a une qualité d'énergie qui est en deçà de ce qu'elle devait être ou au-delà de ce qu'elle devait être.
Ça correspond à quoi, les poux chinois ?
Les poux chinois, alors, les poux chinois, c'est. Donc, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais disons que sur chaque main, au niveau de l'artère radiale, on a les poux de 3 organes, hein, foie, cœur et rein d'un côté, poumon, rate et rein d'un autre côté. Alors, il y a des notions, là, techniques des fluides, qui permettent d'expliquer que le pouls n'est pas, je ne serais pas capable d'expliquer ça, hein, mais qui permettent d'expliquer la différence qui peut exister entre, justement, 3 pouls, et entre le pouls droit et le pouls gauche. Et les Coréens ont mis à jour une machine à enregistrer les variations de pouls, comme ça, hein, vous avez, comme vous avez maintenant des appareils pour prendre les tensions, vous mettez au poignet. Donc là, il y a une machine qui peut, vous mettez un bracelet au poignet, et ça vous enregistre vos 3 pouls, comme ça. Et le patient qui rentre à l'hôpital à Iksan, ou à Séoul, ou même maintenant aussi à Pékin, voilà, on lui enregistre le pouls avec cette machine, et on voit bien la différence de tracé entre les 3 pouls. Donc, par exemple, sur la droite du poumon, de la rate et du rein. On voit bien la différenciation de ces tracés. Et donc, cette machine qui a été mise en place permet d'objectiver, justement, cette connaissance antique, ou en tout cas traditionnelle, de que les gens avaient remarqué, hein, de la variation du pouls aux 3 différents endroits de la main, quoi, et voire aux différents côtés de la main.